Dernier jour de campagne européenne en France aujourd'hui. Les électeurs sont appelés à voter dimanche pour les élections. Le vote a déjà commencé dans certains pays, mais aujourd'hui c'est le dernier jour de campagne. Et donc dans la diversité des programmes, le service économie du CELSA a décidé de revenir sur les enjeux clés de l'économie européenne, histoire d'y voir un peu plus clair en fait dans cette cacophonie tout simplement. On va faire le point entre nous. Je suis avec François-Xavier Roux, Romain Thible et Éléonore Claude. Et donc, tout de suite, on va commencer avec le sujet crispant de la politique économique européenne, à savoir la politique commerciale et tout l'enjeu du libre-échange. Alors aujourd'hui, l'Union européenne dispose de plusieurs accords de libre-échange, notamment avec l'Amérique du Sud, c'est le Mercosur, et très récemment avec le Canada. Certains candidats veulent sortir du libre-échange et revenir à une sorte de protectionnisme. Romain, il me semble que c'est en tout cas la proposition de Manon Aubry pour la France Insoumise et Léon Desfontaines pour le PCF. Donc eux, ils veulent sortir du libre-échange.
C'est ça, en fait, Manon Aubry, elle plaide pour une protection de l'économie européenne des investissements étrangers. Concernant ces investissements étrangers, il y a déjà un règlement qui existe depuis 2019 qui permet de surveiller, sur la base d'une coopération entre les États membres et la Commission, les acquisitions d'entreprises ou de technologies stratégiques par des groupes étrangers. Alors aujourd'hui, les États membres restent les seuls compétents pour éventuellement bloquer ces investissements. Mais un renforcement de ce règlement serait possible si la Commission le décide et si le Conseil au Parlement l'approuve.
Donc globalement, pas mal de propositions de la France insoumise, vous l'avez dit, existent finalement déjà. Est-ce que donc une modification ou en tout cas une évolution de ces règles concernant le libre-échange ne serait pas une des propositions les plus judicieuses? Je crois que c'est la ligne défendue par Valérie Hayer de Renaissance et de François-Xavier Bellamy pour la liste LR. Qu'en est-il, François-Xavier?
Oui, effectivement, les deux candidats proposent des réformes assez similaires. Oui au libre-échange, mais à condition que ce soit fait avec des pays qui respectent les règles françaises et européennes. On parle des clauses miroirs. Ce qu'on demande aux agriculteurs et entreprises européennes doit être demandé aux autres pays qui veulent exporter au sein de l'Union. Les deux têtes de liste ont insisté à plusieurs reprises sur un abandon du Mercosur dont vous avez parlé en début de propos. François-Xavier Bellamy veut même ajouter une clause de sauvegarde permettant de suspendre l'application de ces accords de libre-échange en cas de crise. Le candidat des Républicains et Valérie Hayer soutiennent un renforcement des accords au sein de l'Union européenne afin d'encourager la souveraineté de l'Europe dans le secteur stratégique et le développement des circuits courts. La candidate Renaissance parle par exemple d'un bouclier commercial européen qui comprendrait la mise en place de tarifs douaniers automatiques et massifs face à ceux qui seraient imposés aux entreprises européennes. Une préférence européenne, le Buy European Act, est également évoquée par la candidate de la liste présidentielle pour conditionner les aides publiques européenne et orienter l'attribution des marchés.
Donc tout ce sujet des clauses miroirs, c'est aussi une ligne défendue par une partie de la gauche, mais cette fois-ci la liste Place Publique de Glucksmann, mais aussi les écologistes.
Alors les écologistes, LFI et PS Place Publique, eux défendent donc des clauses miroirs. En fait, ce sont donc des clauses de réciprocité qui s'appliqueraient aux pays étrangers à l'UE pour imposer aux entreprises étrangères le respect des règles établies dans l'UE et de lutter contre la concurrence déloyale. Et donc en fait, toutes les listes de gauche plaident pour ces mesures miroirs finalement, pour les traités de libre-échange.
Mais donc LFI plaide à la fois pour des clauses miroirs tout en voulant sortir du libre-échange.
C'est ça. Et les filles souhaitent également interdire l'accès au marché européen à certains produits. Hein, ça existe déjà avec une loi, par exemple, qui interdit l'importation des produits issus de la déforestation. Il y a aussi un règlement similaire qui concerne le travail forcé. Alors, donc, la ligne directrice, en fait, sur le libre-échange de LFI est plutôt floue actuellement.
D'accord. Mais moi aussi, je me pose la question du RN, Éléonore. Qu'en est-il de l'extrême droite, en fait, vis-à-vis du libre-échange?
Alors ce libre-échange, hein, côté RN, on retrouve un peu les mêmes revendications que partout ailleurs. Tout le monde semble un peu se mettre d'accord.
Donc pas des clauses miroirs aussi?
Alors voilà, une espèce de demande de clauses miroirs. Ils ne disent pas forcément le mot clause miroir. Eux, ils plaident plutôt pour un juste échange à la place d'un libre-échange.
Et qu'est-ce que ça serait ce juste échange par rapport à des clauses miroirs?
Alors concrètement, c'est on accepte le libre-échange dès lors qu'il respecte les normes françaises à tout prix. Voilà, c'est ça la revendication majoritaire. Mais il n'y a pas de mention par exemple du Buy European Act, comme par exemple peut y avoir avec
Valérie,
Renaissance, etc. Donc ça, c'est pas mentionné, c'est mentionné que chez Reconquête. avec Marion Maréchal Le Pen. Mais voilà, côté RN, pas du tout de revendication de ce Buy European Act, juste un respect des normes françaises avec comme seule contrainte une taxe carbone qui serait imposée non plus aux produits bruts mais aux produits finis ou semi-finis et qui pourrait être mise en place, hein, qui n'est pas complètement infaisable. En cas de non-respect en fait, des normes françaises, le Rassemblement national exigerait de mettre des tarifs douaniers plus haut, d'augmenter comme une sorte de punition s'il y a cette concurrence déloyale vis-à-vis de la France.
Donc la ligne du RN serait en fait plutôt, ils ne le disent pas, mais des clauses miroirs en un peu plus dur finalement.
C'est un peu ça, c'est une clause miroir avec une préférence française, une préférence qui est extrêmement revendiquée, hein, favoriser le pays avant l'Europe. Mais en fait, cette préférence agricole française, surtout hein, pour l'agriculture, elle est un peu déjà en place. Puisqu'il y a énormément de lois qui ont été votées sur les appellations contrôlées. Donc c'est quelque chose qui existe, ou en tout cas qui est déjà prévu. Donc c'est pas du tout nouveau.
D'accord. Donc autre sujet très crispant cette fois-ci, mais dans le domaine de l'énergie, le marché européen de l'électricité. Donc depuis le début de la guerre en Ukraine notamment, les tarifs de l'électricité ont explosé. Et ce du fait qu'ils étaient corrélés notamment avec les prix du gaz. Donc si le gaz augmentait, en fait, l'électricité augmentait. Donc tout l'enjeu, en fait, pour les candidats pour ces élections, ça va être de contenir les prix pour les ménages. François-Xavier, une réforme au Parlement européen pour décorréler donc les prix du gaz et de l'électricité a tout juste été adoptée. Et c'est en tout cas la ligne que défend Valérie Ayé encore pour ces élections.
Oui, Valérie Ayé et François-Xavier Bellamy. Encore une fois, les listes de Renaissance et des Républicains se rejoignent sur les principales mesures. D'ailleurs, François-Xavier Bellamy ne s'empêche pas de rappeler à ses adversaires que c'est lui qui porte ce projet de réforme et non le parti présidentiel. Donc oui, au marché de l'électricité, mais à condition qu'il soit réformé. Valérie Ayé veut poursuivre la réforme, François-Xavier Bellamy veut poursuivre la réforme. Tout ça pour protéger le pouvoir des ménages. Quand on parle de production d'électricité, on parle aussi des conséquences environnementales, notamment d'une électricité décarbonée. Et les deux candidats souhaitent utiliser le marché européen pour développer une énergie décarbonée en misant tout sur le nucléaire. Concrètement, pour faire simple, aujourd'hui, l'Union européenne donne des fonds pour la recherche et la formation autour du nucléaire. Les deux candidats souhaiteraient que ces fonds soient aussi attribués à la construction de centrales nucléaires sur tout le territoire européen. Mais ça, certains pays s'opposeraient, notamment l'Allemagne, qui mène une politique anti-nucléaire depuis assez longtemps, de longue date. Et voilà, donc c'est vraiment oui au marché européen, mais à deux conditions, donc la réforme et investir plus dans le nucléaire.
D'accord, parce que pour le coup, il y a des listes qui, à contrario, veulent sortir du marché européen de l'électricité, et ce, complètement. Et donc, encore une fois, une partie de la gauche qui veulent sortir de pas mal de choses. Romain, c'est ce que défend Manon Aubry.
Oui, alors Manon Aubry, elle souhaite complètement sortir du marché européen. Et en ça, elle se démarque hein, de PS Place Publique et des Verts. Manon Aubry, elle a un discours classique de LFI, hein. Elle dénonce l'envolée des coûts de la facture, de plus de 45% hein, selon elle, mais elle dénonce surtout les profits des entreprises énergétiques qu'elle estime à plus de 30 milliards d'euros, mais donc en fait aucune majorité au sein du Parlement européen ne semble aller dans son sens. Plutôt, Place Publique, eux, se militent pour une réforme hein, de ce marché. Raphaël Glucksmann, il souhaite, alors je cite, hein, « garantir en France des prix réglementés, stables et raisonnables, proposés aux ménages, PME et collectivités locales ». Il souhaite en plus, donc on l'a évoqué, hein, rapprocher les prix des coûts réels du système électrique. Hein, ils veulent les déconnecter des prix du gaz pour limiter la hausse des prix de l'électricité, comme on l'a dit. Et donc pour ça, ils souhaitent utiliser alors, ce qu'on appelle des outils comme des contrats à long terme et des contrats pour différence. Alors des contrats à long terme, hein, c'est comme ça veut le dire, hein, ce sont des contrats signés sur plusieurs années et qui limitent ainsi la fluctuation des prix à la journée, à l'heure, enfin voilà, ça limite la hausse des prix. Et donc les contrats pour différence, eux, ce sont des contrats signés entre les pouvoirs publics et les producteurs d'électricité et qui fixent un prix de vente pour plusieurs années. Et enfin, donc Raphaël Glucksmann souhaite instaurer une tarification sociale de l'énergie en introduisant un système de tarification progressive où les premiers kilowattheures d'électricité consommés coûtent moins cher. Ça permettrait aux ménages les plus modestes de payer leur énergie à un tarif réduit. Marie Toussaint, elle souhaite également une réforme avec par exemple un droit à une énergie propre qui soit consacrée en Europe. Elle défend également le principe d'une tarification sociale et progressive de l'énergie. Pour les Verts, en fait, l'objectif, c'est simple, c'est de sortir de notre dépendance aux fossiles et d'aller vers le 100% renouvelable à horizon 2040.
Donc on voit clairement du coup une tension à gauche entre LFI qui eux souhaitent complètement sortir et donc Raphaël Glucksmann et Marie Toussaint qui eux se rapprochent en fait finalement des propositions de Valérie Haye et François-Xavier Bellamy qui est plutôt de réformer le marché de l'électricité européen. Mais moi c'est la position de Manon Aubry que je trouve assez étonnante puisque donc elle propose de sortir pour revenir à une sorte de marché plus français. Est-ce que c'est pas assez proche finalement de la proposition de Jordan Bardella ou en tout cas ce qu'il proposait Éléonore?
Bah si, tout à fait. En fait, c'est que on retrouve entre LFI et le Rassemblement National des grandes similitudes, mais alors des approches un peu différentes pour justifier ces désaccords. Pour Jordan Bardella, il faut complètement sortir du marché européen de l'énergie, puisqu'il faudrait sinon, pour lui, modifier des règles qu'il considère comme absurdes, et notamment changer les règles de la fixation des prix. Parce que, je ne sais pas si vous le savez, mais en Europe, on fixe les prix de l'énergie en fonction de la dernière centrale qui est ouverte et qui est la plus chère. Donc ça veut dire que certaines centrales vont produire de l'énergie, mais quelque part vont perdre de l'énergie qui coûtera moins cher, mais qui sera vendue plus cher. Mmh. Et ça, pour Jordan Bardella, c'est inacceptable, puisque ça engendre une hausse artificielle en fait, des prix, et ça veut dire que le consommateur français va payer de l'énergie qui parfois est produite à bas coût, beaucoup plus cher. Et ça met en danger pour le Rassemblement National et aussi un peu pour Reconquête, une souveraineté énergétique finalement. Mais alors, lui, il préconise un retour à une souveraineté française de l'énergie. Mais comment ? C'est là que ça coince un peu, puisqu'il ne précise pas vraiment comment.
Parce que Manon Aubry, il me semble qu'elle voulait en quelque sorte créer un service public national de l'électricité.
C'est ça.
Autant Jordan Bardella, c'est vrai que dans son programme, c'était assez flou et on ne sait pas vraiment comment il comptait s'y prendre. Est-ce qu'on a des réponses depuis ?
Eh bien, en fait, non, pas tellement. Ça reste très flou parce qu'il voudrait revenir à l'utilisation d'un parc français nucléaire. Parc français qui, en fait, ces derniers temps...
Est en grande difficulté, oui,
tout à fait. Donc, il y a une grande aussi dépendance à nos voisins pour l'énergie, et ça on l'a vu notamment avec la guerre en Ukraine et la flambée des prix de l'énergie, on dépend énormément des autres. Donc ce retour, en fait, ce repli sur soi, il est un peu difficile à concevoir en ce moment.
Puisque il faudrait, en raison de ces dysfonctionnements du parc nucléaire français, j'y pense, se fournir ailleurs. Et au final, ça serait peut-être plus cher pour le contribuable d'aller se fournir ailleurs en voulant retourner à un marché français.
C'est ça. Et donc ça fait... La position de Jordan Bardella a un peu infléchi ces derniers temps. Au début, il était pour une sortie complète. Maintenant, il est plutôt pour des changements parce que, justement, ce principe européen de circulation de l'énergie, ça permet, en fait, de faire payer moins cher aux consommateurs français. Puisqu'on peut, comme on est dépendant de nos partenaires, si on était tout seul de notre côté avec le parc français, l'énergie, en fait, produite serait probablement plus cher. Et c'est l'Alliance européenne qui fait que cette mesure très contestée par LFI et par le Rassemblement national, finalement...
ne serait pas aussi avantageuse qu'elle pourrait le sembler être.
Exactement.
Dernier sujet sur l'économie européenne, la question des moyens pour financer l'Union. Donc comment financer l'Union européenne, avec quels moyens, quelles sources d'argent? Là, c'est le sujet crucial de l'impôt. Voilà, un sujet qui va beaucoup créer de tensions entre les candidats. Donc, la grande question, est-ce qu'il faut un impôt européen pour financer tout ça? Alors là, les camps ont des propositions assez différentes les unes des autres. Certains sont très radicaux, d'autres plaident pour d'autres choses. En tout cas, pour certains, oui, il faut un impôt européen, mais attention, un impôt particulier, Romain, c'est une prône une partie de la gauche.
Alors, la gauche, ouais, c'est encore une fois un discours plutôt classique, surtout de la part des LFI. Hein, on retrouve ce qui fait un peu leur marque de fabrique. Hein, donc, par exemple, instaurer un impôt universel sur les entreprises, hein, basant leur taxation sur l'activité effectivement réalisée dans les pays européens et sur les revenus des particuliers dans les paradis fiscaux. Il y a aussi établir une taxe permanente sur les super profits, hein, étendue à l'ensemble des secteurs d'activité, pas uniquement au secteur énergétique. Donc ce sont de Manon Aubry le justifie hein, comme des propositions pour plus de justice sociale. Elle estime que cela pourrait rapporter des recettes à hauteur de 3 000 milliards d'euros sur 5 ans à l'échelle européenne, et ça lui permettrait par exemple de financer les investissements dans les services publics, les infrastructures et la bifurcation écologique. Donc voilà, c'est un discours classique du côté de LFI. Du côté de Place Publique, c'est pareil, on retrouve plus ou moins la même idée, hein, garantir l'accès au marché européen grâce à un paiement d'un impôt minimum. Donc en fait, on parle d'une taxation entre 15 à 25% pour les multinationales. Et en fait, cet impôt, ça serait la porte d'entrée, si vous voulez, au marché européen. Bon, cette décision, elle est loin d'être validée par l'ensemble des États.
C'est réalisable, ce qu'il propose.
Alors, ça semble vraiment très difficile. Hein. Trouver une majorité au Parlement semble, à l'heure actuelle, en tout cas, vraiment infaisable. En fait, chez les Verts, c'est pareil, on retrouve toujours cette volonté de mettre de l'impôt. Comme LFI, Marie Toussaint, elle souhaite mettre en place une taxe sur les transactions financières, ainsi qu'une taxe sur les super-profits et les multinationales. Sur les super-profits des multinationales, pardon. Donc la particularité des Verts, c'est qu'ils plaident pour un ISF climatique. Avec cet impôt, elle estime un apport à hauteur de 200 milliards d'euros chaque année pour financer la transition écologique.
En tout cas, des propositions qui doivent sans doute hérisser le poil de Jordan Bardella, qui lui vraiment est radicalement contre la création d'un nouvel impôt européen, mais comme Marion Maréchal Le Pen, je crois.
Ah bah complètement, pour lui c'est vraiment à l'opposé de la France insoumise. Cet impôt européen, pour lui, c'est une grande perte en fait, et ça accentue aussi la dette de l'État, et il veut retrouver cette souveraineté, hein, toujours on tourne autour de ça. Donc baisser les contributions de la France, qui s'élèvent à environ 21 milliards d'euros, parce qu'en fait la contribution est calculée sur les recettes du pays. Alors, comment c'est faisable concrètement? D'abord, il y a un premier souci, c'est qu'il voudrait baisser l'apport de la France à l'Union européenne, mais en même temps, il veut toujours continuer à bénéficier largement de la PAC.
Il veut le beurre et l'argent du beurre, c'est
ça? Exactement, il veut le beurre et l'argent du beurre. La France est le premier pays bénéficiaire de la... Des subventions de la PAC. Donc voilà, c'est un peu compliqué à faire tenir ensemble.
La PAC, politique agricole commune, juste pour
c'est
le
ça.
Rappeler. Ouais.
Oui, tout à fait. C'est facile de s'imposer à la création d'un nouvel impôt. Les États ont leur mot à dire au Parlement, mais ce qui a déjà été voté, c'est un peu compliqué. Par exemple, Reconquête aimerait baisser de 20% les dépenses qui sont faites de la France pour l'Union européenne. Ça veut dire 4 milliards en moins, à peu près. Et pour ça, pour voter des mesures fiscales au Parlement européen, il faut une unanimité des pays.
Donc il faudrait que tous les pays de l'Union européenne soient d'accord pour que la France paye moins d'impôts.
Exactement. C'est hyper compliqué. Ça a été possible une fois au début, quand le Brexit commençait à se mettre en place. Mais enfin, c'est quand même un cas particulier. Et donc voilà, ça semble assez compromis, en tout cas, pour les mesures proposées par le RN.
Et par le RN et par Reconquête. Est-ce qu'il y a un entre-deux, François-Xavier, entre c'est un nouvel impôt européen et moins payé d'impôts pour l'Union européenne?
Ah bah oui, totalement. Mais vous commencez à connaître la musique. François-Xavier Bellamy et Valérie Ayé portent les mêmes propositions, en tout cas dans les grandes lignes. Et donc les deux s'opposent fermement à la création d'un impôt à l'échelle européenne. Mm-hmm. Et donc comment financer l'Union européenne? François-Xavier Bellamy propose de mettre en place un livret d'épargne européen qui permettrait d'orienter l'épargne des ménages vers les secteurs stratégiques. Il demande vraiment aux citoyens européens de faire l'effort de participer à la réindustrialisation de la France et de l'Europe, comme il le dit. Il souhaite notamment lancer un grand plan Made in Europe 2030 pour financer cette relocalisation. Et pour lui, hors de question de créer des taxes auprès des entreprises, des taxes supplémentaires. Il veut laisser les entreprises compétitives. Là où il y a une petite divergence avec Valérie Ayé, qui souhaite financer ces 100 milliards d'euros d'investissement pour l'Europe via de nouvelles taxes, et notamment la taxe carbone aux frontières adoptée lors de la dernière mandature. Voilà, c'est toujours cette idée de ne pas faire payer le contribuable, mais de faire payer l'entreprise pour participer à la... Emmanuel Macron parlait de la Startup Nation, on peut parler de la Startup Europe. Mmh. Voilà, toujours cet esprit de compétitivité entre les entreprises pour avoir une Europe puissante économiquement.
Alors voilà, on a fait le tour de plusieurs enjeux clés économiques de ces élections européennes. On espère que vous y voyez un peu plus clair. N'oubliez pas de voter dimanche, le 9 juin, élection européenne, les résultats à 20h. On les traitera évidemment sur le 16 à l'âme. Merci.